Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation. On te retrouve après l'émission comme d'habitude. C'est l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire, c'est-à-dire vous. Aujourd'hui, nous recevons Charlène Tatto et Grégory Mercier qui viennent nous présenter le comptoir électroménager solidaire. Ils ne viennent pas de loin d'ailleurs. Comment allez-vous ?
Mais très bien.
Voilà, on va passer une petite heure ensemble, on va découvrir un peu ce que vous faites, vos actions et votre association. C'est intéressant, on va parler réparation, électroménager, et puis des choses qui sont intéressantes pour tout le monde, vous allez voir. On va d'abord faire un petit saut pour écouter le Flash Info national et international. Et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Nous voilà de retour avec Charlène et Grégory. Ben alors, tradition oblige, avant de démarrer l'émission vraiment à proprement parler, on aime bien cuisiner un petit peu nos invités pour savoir qui ils sont, savoir à qui on a affaire et savoir quelle trajectoire les a menés aujourd'hui à ce micro. Alors bien entendu, on va commencer, par honneur aux dames.
Merci. Charlène. Je suis prête.
Allons-y.
Alors donc, je m'appelle Charlène Tatto, j'ai 43 ans, 3 enfants, je suis native du Grand Dax, je suis née à Dax et comme je le dis souvent, je pense que je mourrai ici.
Ah oui ?
C'est très positif.
Pas aujourd'hui.
Vous voyez. Hein. Non, pas aujourd'hui.
Non.
On va essayer de durer le plus longtemps possible. J'ai en fait une carrière très très orientée sur l'action sociale puisque j'ai été pendant 15 ans conseillère en insertion professionnelle sur différentes structures, organismes de placement tels que France Travail, Cap Emploi, également en ESAT, donc avec des publics systématiquement en difficulté sociale et professionnelle. Et post-Covid, un petit ras-le-bol d'être salariée, j'ai souhaité monter ma propre structure. Donc je suis aujourd'hui la cofondatrice puisque j'ai monté ce projet du comptoir de l'électroménager solidaire avec mon cousin initialement, qui est parti vers d'autres orientations pour ce qui le concerne. Et ce qui m'amène aujourd'hui à être accompagnée, puisque je ne suis pas toute seule, je suis avec Grégory, qui est aujourd'hui chef d'atelier chez nous. Donc je peux peut-être lui donner la parole si vous en êtes d'accord.
Bien sûr, allons-y.
Donc je me présente à Grégory Mercier. 43 ans, 2 enfants aussi. Mon parcours professionnel, moi je suis issu beaucoup plus du bâtiment à l'origine et j'ai géré plusieurs entreprises dans le bâtiment.
Oui.
La vie a fait que j'ai dû stopper ma dernière entreprise à contre-cœur pour le coup. Et que j'ai vu passer une annonce pour le comptoir de l'électroménager solidaire qui m'a fortement intéressé et pour lequel le côté social m'a aussi fortement attiré. Et ce qui fait que j'ai intégré en mars l'année dernière, tout juste un an, la structure. Et qu'aujourd'hui, tout se passe super bien et on forme une super équipe et... on est un super quotidien.
Très bien. Alors voilà, évidemment, vous avez parlé du Covid. Hein, c'est toujours été un... Enfin, pour beaucoup de personnes, c'était une sorte de... pardon, de hiatus dans la vie. Hein. Il y a eu cette espèce de moment suspendu où plein de gens se sont dit mais où vais-je ? Qui suis-je ? Dans quelle étagère ?
C'est ça. Et la quarantaine aussi, je pense
que
ça joue. Milieu de vie, on se dit, tiens, il me reste encore 20 ans à travailler et qu'est-ce que je veux faire mes compétences. Et effectivement, n'était pas porté aujourd'hui sur notre collectivité le traitement des déchets électroménagers.
Oui.
Et c'est tout simplement parce que je suis psychologue du travail et que je souhaitais créer de l'emploi, mais de l'emploi accompagné. Tout simplement.
Alors c'est l'occasion, puisque vous parlez d'emploi, c'est l'occasion vraiment de préciser, on en a parlé aux antennes, que ce genre de structure, souvent, sa première intention, c'est de créer de l'emploi.
Exactement, voilà.
Oui, de l'emploi donc accompagné. L'idée initiale du comptoir, c'était de pouvoir occuper, si j'ose le dire comme ça, 10 personnes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est une structure d'insertion. Donc, on fait partie des 23 structures qui existent dans les Landes. C'est près de 1200 personnes qui bénéficient aujourd'hui d'un contrat au sein de ces associations, dont la nôtre. Et au départ, on imaginait un calibrage aux alentours de 10 personnes accompagnées. Et aujourd'hui, on est 20. Donc c'est, ah oui.
C'est une belle structure.
Et demain, je l'espère en tout cas, puisqu'on a des projets d'agrandissement de notre local, de pouvoir, puisqu'il y a énormément de sollicitations sur bah, notre activité, à savoir la vente et la réparation d'électroménagers. C'est le quotidien qui est touché, hein. Tout un chacun au quotidien. Vous avez chez vous des équipements qui sont connectés ou qui sont électriques, hein, électroniques. Et dès l'instant que c'est en panne, c'est là qu'on se rend compte qu'ils sont indispensables à notre quotidien.
C'est vrai que fleurissent dans certaines déchetteries, hein, un petit conteneur à part où on dépose certains appareils pour que justement des structures telles que les vôtres les récupèrent et les revalorisent, le donnent une deuxième vie éventuellement. Alors après votre formation, est-ce que vous avez fait avant et vous aviez les contacts et les tuyaux pour faire cette insertion, parce que vous avez des partenaires pour faire tout ça, j'imagine. Quels sont-ils?
Alors le premier partenaire, je vais dire que c'est l'État, puisque c'est quand même grâce à lui aujourd'hui si on est agréé sur notre association Atelier Chantier d'Insertion. Et c'est ce qui nous permet aussi de générer des postes pour occuper donc aujourd'hui 14 salariés qui sont en contrat d'insertion, je l'ai dit tout à l'heure, et qui sont gérés par Grégory au quotidien et par Jean-Noël, puisqu'ils sont deux encadrants techniques chez nous. Elodie, elle, a une autre fonction. D'ailleurs, je pense qu'elle nous écoute. Donc je lui fais un petit coucou.
Avec la clé de cidre.
Exactement. Elle est accompagnatrice socio-professionnelle. Donc elle a pour mission d'aider les salariés qu'on accompagne, puisque c'est juste transitoire. C'est un tremplin qui est proposé, un CDD, avec les partenaires donc France Travail, je redis encore, Cap Emploi, Mission Locale, les assistantes sociales qui nous orientent des personnes en difficulté, qui ont vraiment besoin de retravailler. Et nous, notre défi au quotidien, c'est tout simplement de pouvoir leur redonner confiance par le faire. Et nous, ce que l'on fait, c'est les positionner sur des tâches de collecte et de réparation. Voilà, et on les monte en compétences sur ces métiers-là, puisqu'on a deux formateurs en interne. Je considère Grégory et Jean-Noël comme aussi des formateurs. C'est un petit peu le métier qu'ils occupent au quotidien.
Alors, vous parliez de local, peut-être le changer. Où est-ce qu'on vous trouve? Vous vous situez où?
Alors, on se trouve à Saint-Paul-et-Dax, boulevard Saint-Vincent-de-Paul, pas très loin de la mairie et du McDo pour situer pour les locaux.
Quatre chemins,
les quatre chemins. On a un local aujourd'hui de 400 mètres carrés qui à terme sera doublé en surface si bien évidemment les permis nous sont accordés, puisqu'il y a aussi des décisions communales qui interviendront prochainement en notre faveur, je l'espère.
Il faut attendre les élections, quoi.
Exactement.
Pour beaucoup de choses.
On verra si c'est Monsieur Bazus ou Madame Rabat pour le coup.
Voilà, c'est ça.
Aujourd'hui, on ne sait pas. On verra. Tout ça pour préciser qu'on est à Saint-Paul et Dax en tout cas, et qu'on collecte aujourd'hui sur l'ensemble de la communauté des communes. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, un autre partenaire important et incontournable pour nous. Si on récupère des machines, c'est aussi parce qu'on a des conventions au niveau des pouvoirs publics avec le Grand Dax et le Sitcom, qui nous autorisent en fait à prélever les appareils dans des conteneurs maritimes que les administrés, lorsqu'ils font face à une panne, vont avoir un réflexe malheureux de jeter. Mais on leur en veut pas. Ça permet aussi à la structure d'exister.
Et oui, c'est ça.
Et du coup, de pouvoir travailler sur ces appareils avant qu'ils soient détruits. C'est-à-dire que nous, on va s'interposer entre la déchetterie et le centre de recyclage, Suez, Veolia, par exemple, qui vont, eux, détruire les machines en partie, collecter bien évidemment les métaux précieux qui sont dedans. Mais la majorité, c'est quand même encore de l'incinération aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Donc notre action, elle est vraiment là. C'est 11 000 unités collectées l'année dernière, puisqu'on vient de sortir nos rapports d'activité et on en est fiers. Donc 11 000 machines qui ont été traitées par notre équipe, 3 000 qui ont été revalorisées. Donc on peut être fier de ce que l'on agit avec 20 emplois créés. Et on est débordé tous les jours.
Oui, c'est ça, vous pouvez être fier parce que vous avez créé aussi des emplois. Voilà, moi, je ne suis pas chef d'entreprise, mais moi, je serais super content de me dire qu'il y a 20 gars qui travaillent grâce à moi.
Ça, et autant de déchets qui ne sont pas dans la nature non plus, qui ont été revalorisés.
Alors justement, c'est quoi le taux de réemploi sur 100 machines, 100 bidules qui arrivent esquintées? Combien est-ce qu'il y en a qui partent à la benne et combien vous en sauvez?
Alors nous, on est sur une proportion de 30 sauvés sur 100 appareils qui rentrent sur l'atelier. Grégory le dira très bien, on a deux choses qu'on regarde en priorité quand on réceptionne un appareil, ça va être son état. Est-ce que ça vaut le coup en gros, de passer du temps dessus, s'il est rouillé, abîmé. Oui. Est-ce qu'on se met à la place d'un adhérent qui viendrait en boutique pour l'acheter?
Oui. C'est voilà. Déjà, un diagnostic avant. Ouais.
On est d'accord. Et ensuite, on passe au diagnostic où on va tester l'appareil et voir, en fonction de la panne, si ça vaut le coup d'investir dessus.
Exactement, parce qu'on a beaucoup de pièces en réemploi qu'on collecte sur les flux quand on ne peut pas réemployer les appareils. Mais malheureusement, de temps en temps, il faut quand même des pièces neuves, et là c'est justement la balance qui fera que l'investissement de la pièce de départ plus le prix de vente fera qu'on investit ou non, pour rester quand même compétitif malgré tout sur de la revalorisation, c'est pas du neuf, donc voilà, il faut quand même rester compétitif malgré tout, et tout est sauvable, mais malheureusement aujourd'hui on peut comprendre que le budget effectivement est un frein.
Ouais, d'ailleurs on en parlera un petit peu tout à l'heure, on va faire une pause, mais on parlera aussi de cette histoire de tous les appareils ne se valent pas en termes de réparation, et on dira du mal d'une pomme qui a pris un coup de dent, parce que voilà, il y a des appareils qui sont prévus pour ne pas être réparés, il y en a qui sont faciles à réparer parce qu'ils ont été conçus pour ça. Voilà, on va faire d'abord une première petite pause, on va écouter une petite musique qui va vous dire quelque chose, tiens, qui est de circonstance, et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. Et nous voilà, alors si on veut passer l'amour à la machine, il faut qu'elle fonctionne, cette machine.
Exactement.
Alors, l'électroménager, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un truc, il y a le blanc, hein. Le blanc, parce que généralement, ces appareils qui sont de couleur blanche, hein, les gros engins qui font du bruit.
Vous êtes sur une grosse catégorie, on va dire, qui représente 80% des flux qu'on a.
Les gros électroménagers, effectivement, on va parler plus de blanc, et le brun, ça va être plus les ordinateurs, les télévisions.
Les aspirateurs, les cafetières.
On est sur du PAM, voilà, on va avoir notre petit jargon, c'est petit appareil ménager et gros électroménager.
Certains appellent ça aussi le PEM.
C'est ça.
Petit
c'est trop mignon.
Ah oui. Ça vous parle?
Oui, non, mais le PAM, je ne connaissais pas. Le blanc, je connaissais. Le brun aussi, mais le PAM, je connaissais
pas. Nous, on parle
pas.
Plus de catégories. Et d'ailleurs, les éco-organismes ont tendance à me demander des statistiques mensuelles sur les flux que l'on reçoit, et on utilise ce jargon-là. J'aime, PAM, hors froid,
GEM, ça va être GEM pour gros électro ménager.
Ah oui, d'accord.
Et le HF, après ça va être GEM HF, c'est hors froid. Et, voilà,
c'est des petites appellations.
Ah ouais, dis donc, il y a du jargon. Comme dans toutes les disciplines, ça prouve sa spécificité.
Exactement.
Alors, donc vous avez des points de collecte, vous avez un moyen de récupérer donc tous ces engins. Comment est-ce que ça se passe?
Alors, la chaîne au quotidien, on a deux chauffeurs. Voilà, un camion, un 20 mètres cubes qui quotidiennement assure les collectes, puisque tous les jours il faut alimenter les postes réparation. On est sur une trentaine d'appareils qui sont collectés au quotidien. La concentration, c'est ce que je vous dis, à l'année c'est 11 000
unités.
Mais vous
avez de la place pour stocker ça justement là?
Alors on a la place sans avoir la place, il faut tout le temps pousser les murs, quoi qu'il arrive.
C'est pour ça que vous voulez changer peut-être d'endroit aussi?
Alors pas changer d'endroit,
non, ce que disait Charlène tout à l'heure, on va essayer d'optimiser plutôt les lieux où on est, parce qu'on est connu à l'endroit où on est aujourd'hui. Mais les murs, effectivement, seraient à pousser. Plusieurs fois par semaine, on va faire un tri sur ce qu'on a déjà trié quand c'est rentré. On va devoir refaire un tri parce que, effectivement, on a beaucoup trop de flux. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, malheureusement, on ne peut pas tout sauver non plus, parce qu'on doit justement récupérer ce que disait Charlène au niveau esthétique. Déjà, on va faire un premier tri déjà au niveau esthétique. Et après, trois fois par semaine, on a un camion qui vient récolter tous nos déchets sur lesquels on pourra revaloriser. Vous
faites un peu le même travail que les médecins de guerre, quand un blessé arrive, celui-là, hop, il n'est pas sauvable, celui-là, il est sauvable.
On est obligé, malheureusement, effectivement, de faire des tris assez rapides, des fois, pour nous vider un petit peu les stocks, parce qu'on en a un petit peu trop, effectivement.
Donc c'est écosystème pour l'éco-organisme qui passe aujourd'hui au sein de notre structure, donc comme il le précisait, trois fois par semaine. Et nos points de collecte, ça reste les déchetteries. Également chez les particuliers, on faisait jusqu'à l'année dernière des enlèvements à domicile à 5 euros. Le problème, c'est toujours la mobilisation des équipes. Quand on est sursollicité, c'est des frais de route la gratuité n'est pas possible pour nous aujourd'hui, au vu des restrictions budgétaires, puisqu'on va aussi aborder, vous entendez au national, qu'il y a des restrictions. Bah, il faut savoir que l'insertion par l'activité économique aujourd'hui est concernée, et effectivement, on nous retire des budgets qui... alors, on parle d'environnement, on doit accompagner, mais le problème, c'est que les politiques ne sont pas forcément en face. Même si les conventions sont signées en local, ça ne suffit pas aujourd'hui. Donc, on aurait la place pour, franchement, occuper 6-7 salariés supplémentaires. Mais voilà, c'est un modèle économique qui ne peut être pérenne que si on a plus de place. Et tout simplement, il faut qu'on puisse aussi collecter davantage pour y arriver. Oui. Donc, chez les particuliers, comme je disais, on collectait. Maintenant, c'est exclusivement déchetterie. Vous comprenez bien qu'un camion qui part le matin et qui vide un container, c'est beaucoup plus rapide que de passer chez 14 particuliers porte-à-porte. Également, les magasins spécialisés. Donc, il faut savoir que sur le Grand Axe, aujourd'hui, on collecte auprès de nos collègues de Conforama et d'Electrodépôt qui nous font don de leurs machines. Le Grand Mail également. Oui, c'est un passage par mois. Il n'y a pas les mêmes volumes. Ce sont donc des appareils que les gens ont souhaité changer et qu'on récupère pour les revaloriser chez nous.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Et alors, est-ce que vous avez un recul, une opinion par rapport au comportement des gens ? Moi, j'ai l'impression personnellement, bon, c'est une conversation que j'ai déjà eue avec certains de vos collègues, que les gens pensent un petit peu plus à cet aspect maintenant, quand même, réparer plutôt que jeter, penser un petit peu si ça vient de près plutôt que si ça vient de loin, etc. Est-ce que c'est du greenwashing, ça, ou est-ce que ça existe vraiment ?
Ouais, ça existe vraiment. Il y a vraiment une prise de conscience de la part du particulier depuis quelques années maintenant, où on voit avec l'indice de réparabilité qu'il y a sur les appareils. Et en plus, comme on disait tout à l'heure, on a aussi le service réparation où on est qualifié avec le bonus réparation, donc le label Cali Répare, pour lequel le particulier a droit à un bonus de l'État qui vient en déduction de sa facture. Donc on voit vraiment que les gens maintenant ont passé le cap de la surconsommation. Ils ont envie quand même et ils ont compris que de réparer souvent était quand même préférable au changement. Au changement. Donc on a une prise de conscience. Elle n'est pas encore, c'est pas la majorité. Mais ça va venir. Je pense que les gens sont soucieux de l'écologie et de l'environnement aujourd'hui plus qu'il y a quelques années.
Après, financièrement, ils sont peut-être un petit peu forcés aussi pour certains.
Tout à fait, effectivement. Ça va avec l'économie d'aujourd'hui, effectivement. Mais moi, je trouve que c'est très bien. Il faut avoir cette prise de conscience et la valoriser. Il faut que la nouvelle génération pense que c'est réparable leur matériel avant de le jeter. Il ne faut pas aller juste au magasin consommer bêtement des appareils.
Alors après, c'est vrai, j'allais dire, vous avez la chance, vous occupez d'appareils qui sont entre guillemets réparables, etc. Mais alors les autres, les recycleries, tout ça, qui se récupèrent des tonnes de cochonneries, des habits Shine, etc. Et qui se retrouvent justement, ils n'en veulent plus parce qu'ils
sont submergés aujourd'hui.
Des milliers de mètres carrés de stock d'habits de très mauvaise qualité au départ, de façon et tout. Et là, par contre, il y a, je sais pas où ça en est cette partie de la consommation, mais c'est infernal, ça.
Nous, on a écosystème comme éco-organisme. Il faut savoir que les recycleries, elles ont affaire à refashion, et aujourd'hui tout est bloqué. Donc j'ai entendu, puisqu'on est en lien avec les autres recycleries landaises, par exemple sur Souston voisinage, il me semble qu'ils ont cessé pour le moment de récupérer et de passer.
Ils sont forcés.
Exactement. Donc il y a des dynamiques aussi où les personnes ont un réflexe qui change avec les plateformes, c'est-à-dire que ce qui se retrouve jeté, c'est vraiment des fois en bout de course. Donc c'est aussi sur ce flux, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on collecte du textile qui n'est même pas valorisable. Donc c'est gérer de la tonne, et c'est ça qui est compliqué. Puisque dès que vous avez des marques, votre réflexe peut-être à vous ou à vos proches, ça va être de valoriser sur Le Bon Coin, sur Vinted ou ce genre de plateformes qui aujourd'hui font du mal aux recycleries, parce que derrière, moi je suis désolée de le dire, mais c'est on envoie des colis. C'est facile d'envoyer un colis, mais au niveau carbone, on oublie peut-être de se dire que derrière, c'est des chauffeurs, c'est de l'essence et c'est tout ça. Au lieu d'essayer de trouver un système en local qui pourrait tout à fait être intéressant à travailler. Mais bon, c'est l'avenir qui dira quelle orientation sera prise.
On le sait, ce ne sont pas des bons textiles, donc c'est difficilement revalorisable.
Alors là, c'est la double peine, parce qu'en fait, c'est les vêtements de mauvaise qualité, c'est du plastique.
C'est ça. Ouais.
Ça va pas être du coton ou du lin de haut de gamme, on est d'accord. Donc c'est du plastique. Donc déjà, au départ, c'est une cochonnerie faite à partir de pétrole. En plus, ça vient de l'autre côté
du
monde.
Donc
là, en fait,
l'empreinte carbone est très très mauvaise.
C'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe.
Sachant qu'en local, on a quand même de petits artisans couturiers qui peuvent réparer de bons textiles quand même. Donc c'est à prioriser effectivement quand vous avez des vêtements de marque, de faire travailler un petit peu ces gens qu'on a en local et qui travaillent bien, de bons petits artisans.
Et nous, c'est effectivement des emplois locaux non délocalisables.
Voilà.
Donc,
venez
acheter du reconditionné, c'est garanti et tout va bien.
Voilà, vous avez la pub en plus, c'est bon.
C'est ça. Ben,
on va faire une deuxième pause, on va écouter le Flash Info local et on se retrouve ensuite pour la suite de cette émission. Et nous voilà de retour, on retrouve nos invités, Charlène et Grégory, du comptoir électroménager solidaire.
Toujours là.
Toujours là.
Alors, on a parlé un petit peu des machines, on va parler des gens, parce que l'important quand même dans la vie, c'est les gens.
Tout à fait.
Alors, quels sont les profils des personnes que vous recevez et par quel biais ?
Par quel intermédiaire ? Eh bien, écoutez, il existe aujourd'hui une plateforme, la plateforme de l'inclusion. Les partenaires l'utilisent. France Travail, pour 80% des candidatures que l'on reçoit, l'utilisent. Donc chaque conseiller, quand il est en agence face à un demandeur d'emploi, peut évaluer les difficultés, puisqu'on va vraiment venir sur des personnes qui nous sont orientées avec des freins périphériques à l'emploi qui les empêchent et qui les contraint aujourd'hui de ne pas pouvoir accéder à un travail ordinaire.
Ouais.
Typiquement aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des difficultés de mobilité suite à des retraits de permis, suite à des excès, addictions par exemple.
Oui,
donc le soin fait aussi partie de nos missions. Des difficultés de logement. Voilà, on va être vraiment sur des personnes éloignées de l'emploi parce qu'il y a eu une chute dans leur vie personnelle qui a entraîné une défaillance professionnelle. Et quand on perd son travail aujourd'hui, financièrement, c'est vite la panade. Donc nous, on est vraiment là pour pouvoir les remettre sur le circuit et sur le monde de l'emploi en leur offrant un cadre qui est structurant pour eux. Et au quotidien, déjà, c'est un salaire. Donc on fait des contrats aujourd'hui qui peuvent aller jusqu'à 24 mois, mais le premier contrat est de 4 mois. L'objectif, c'est d'avoir des personnes face à nous en entretien qui ont eu le déclic et qui sont prêts à travailler sur leurs difficultés et qui sont OK pour repasser le permis, pour faire des démarches. C'est le défi d'Élodie, dont on a parlé tout à l'heure. Elle les accompagne. Donc, toutes les semaines, elle les reçoit en entretien individuel. Donc, comme on n'a que 14 personnes, c'est un cadre quand même qui est très privilégié, où on peut individualiser l'accompagnement et orienter le cas échéant vers nos partenaires sociaux. Grégory et Jean-Noël vont être là au quotidien pour vraiment les aider à se mettre au travail.
Pour leur rapporter ce qu'on disait, un cadre, se lever le matin, travailler en équipe, avoir des tâches à accomplir.
C'est un peu éducateur aussi, hein, pas que...
Exactement, ouais, tout à fait. Hein, c'est vraiment pour les remettre sur le chemin de l'emploi et pour que quand ils se représenteront dans une entreprise, ils aient les codes du travail et qu'ils sachent se débrouiller au mieux possible. On va dire que la majorité de nos employés, même si on leur apprend un métier qui aujourd'hui, où il y a quand même une forte demande sur ce métier, ne vont pas forcément rester dans ce métier. Hein. Vraiment, le but étant vraiment de les raccompagner vers l'emploi. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien et on travaille beaucoup, hein, comme on le disait avec Élodie et Jean-Noël, à discuter de ce qui se passe à l'atelier. Pour qu'on puisse les aider au mieux dans leur accompagnement au quotidien, hein, tout simplement.
Donc ce qui est priorisé, c'est de déterminer un projet professionnel avec une orientation sur la formation ou sur un emploi direct dès l'instant que les freins périphériques ont été travaillés. Donc quand on retrouve le permis, on augmente les chances d'aller plus loin pour trouver du travail et c'est plus facile. Donc voilà, on est vraiment sur une moyenne de 20-25 personnes personnes accompagnées à l'année et accompagnées sur de l'emploi en majorité, puisque si on parle statistique et taux positif de sortie à l'issue d'un contrat d'insertion, notre structure est aux alentours de 70%. On ne peut pas sauver tout le monde, c'est comme pour les machines. Vous voyez, donc on répare des appareils.
Et des gens et des vies. Hein.
Exactement, et on répare des parcours de vie.
Oui. Voilà. Bon, après, c'est intéressant aussi pour les gens parce que le frein pour un travail, par exemple, c'est l'item qualification. Voilà. Je ne sais pas faire ce travail, donc je ne peux pas postuler. Là, par contre, vous prenez des gens qui ne sont pas forcément qualifiés.
Alors, ils ne sont pas du tout qualifiés là, voilà. Pour la majorité. Hein, il y en a vraiment, je ne pense pas, même en avoir eu un seul qui était qualifié sur de l'électroménager à la base. Après, ils ont toujours des appétences quand même au niveau manuel. Hein,
c'est mécanique.
Exactement.
Électrique.
Donc, on leur apprend ce métier, on leur fait quand même passer des formations, hein, donc ils sont formés pour réparer de l'électroménager, que ce soit des lave-linges, sèche-linges, fours et autres. On leur fait passer des habilitations électriques aussi.
Tout à fait.
Comme ça, quand ils sortent de chez nous, ils ont quand même un petit package qui
Ils ont une ligne sur le CV qu'ils n'avaient pas avant quand même.
Exactement.
Ah, oui.
Et ils ont appris un vrai métier également. Hein, s'ils voudraient soit intégrer une structure ou soit monter leur propre structure, ils auraient déjà les bases et des bases solides. Pour se faire quoi.
Et donc alors vous leur apprenez à réparer, donc il y a la partie on va dire électronique pure, un peu de mécanique, un petit peu de plomberie j'allais dire aussi.
Alors, non pas trop de plomberie, c'est vraiment oui la structure elle-même de la machine, que ce soit un lave-linge, un sèche-linge. Donc on va commencer par les faire démonter les appareils pour qu'ils justement ils comprennent un petit peu quelle pièce va où elle se situe, comment elle s'appelle,
à quoi elle sert.
Ça, donc, on n'est pas forcément ça.
Exactement.
Si je vous dis Presosta, résistance, c'est où sur un appareil?
Alors moi j'ai déjà eu des chauffe-eau à gaz en panne, donc je sais. Enfin, sur un chauffe-eau à gaz.
Exactement. Donc on leur apprend un petit peu tout ça et à la fin ils deviennent autonomes et c'est là qu'on voit leur évolution quand ils arrivent et quand ils partent de chez nous.
Et c'est notre fierté aussi.
Exactement.
Et c'est pour ça
c'est
qu'on se bat à leur côté.
Et oui, vous versez une petite larme quand ils partent des fois.
Oui.
Parce que vous créez des liens
c'est
et ça. Ils reprennent leur vol.
Exactement. Ils prennent confiance en eux et ça, c'est vraiment très important, ce côté social qu'on a au quotidien avec eux.
Oui, bien sûr. Alors, il y a aussi une partie dont je voulais parler, c'est vous faites aussi des ateliers numériques. Hein, voilà, donc là,
ça
c'est
fait
aussi,
partie de nos missions.
Voilà, vous luttez, vous faites partie de ceux qui luttent contre la fracture numérique.
Hein. Oui, vient compléter, on va dire, l'offre qui est proposée au niveau de chaque communauté des communes. Vous avez un médiateur numérique qui est missionné pour accompagner les personnes qui sont vraiment, on va dire, que l'outil informatique à qui il fait peur. Donc, nous, en interne, jusqu'à ces deux dernières années, on avait lancé un point relais numérique Emmaüs Connect, qui est au national, nous permet d'avoir des outils pour former les personnes. On est sur des cours individuels. Nous, on a fait ce choix-là,
d'accord,
contrairement aux médiateurs numériques qui aujourd'hui travaillent beaucoup sur du collectif. On se rend compte qu'il y a des demandes en local, surtout des Saint-Paulois, pour le coup, qui sont orientées souvent par la mairie. Quand une personne ne peut pas remplir un formulaire en ligne, n'a pas d'adresse mail, on peut tout à fait l'accompagner et l'équiper. Ça, c'est l'avantage aussi. On a des outils informatiques à bas prix. Reconditionne pour l'ALPI, pour le département, des ordis qui terminent justement entre les mains de personnes qui suivent les cours auprès des médiateurs.
Oui.
Voilà.
Sur votre site, d'ailleurs, on peut voir quelques photos, des exemples de choses que vous vendez, hein, parce que bien entendu,
c'est ça.
Il y a un modèle économique, hein, circulaire et virtueux, mais il faut bien revendre parce qu'il faut bien que l'argent rentre.
Il nous faut
aussi un
chiffre d'affaires, effectivement, ça compose et c'est notre modèle économique qui veut ça, 60% de subventions pour 40% de chiffre d'affaires et de vente magasin.
Voilà, dans les subventions, c'est de l'État ou il y a du local aussi?
Alors en local, non. Mais par contre, ils nous ont aidés, hein, que ce soit au niveau du département ou au niveau de la communauté des communes du Grand Dax, sur les investissements. Ils ont vraiment aidé la création de la structure. Depuis, il faut qu'on vole de nos propres ailes. Hein. Le but, c'est pas d'être assisté et sous perfusion de l'État. On est aidé surtout pour les aides au poste. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le premier partenaire pour moi, il est partenaire aussi financier. C'est que 50% des aides que nous avons pour payer nos salariés en contrat d'insertion, puisqu'il y a une réelle perte de productivité, bien évidemment, au départ, puisqu'ils ne savent pas travailler.
Oui,
et le but, c'est de les accompagner vers un schéma où, à terme, ils nous quittent en ayant réussi, bien évidemment, le défi de réparer des appareils, de les valoriser à nos côtés. Et ensuite, c'est les éco-organismes. Comme aujourd'hui, il faut savoir que quand vous achetez un appareil neuf, vous payez une éco-taxe sur votre facture.
C'est vrai.
C'est collecté au niveau national et c'est reversé à notre association.
Ah, mais ça,
sur
c'est bien
chaque appareil
parler.
Qui est... Tout à fait, il faut le dire.
Voilà. Il faut le dire, parce qu'en fait, c'est un truc qui s'est apparu un jour et on se dit, ah, voilà,
ça
y est,
loi.
On paye sur la facture et on paye en plus, c'est encore un truc qui part, on ne sait pas où.
Ne râlez pas.
Non, c'est vrai qu'on
c'est bien utilisé.
On a eu ce réflexe-là, mais c'est bien de savoir que ça vous revient. Voilà, ça c'est bien.
Oui, tout à fait.
Voilà, là, moi c'est bien, l'investissement des impôts dont on est content.
Exactement. Un impôt indirect, du coup, puisqu'il est sur votre facture.
Oui, indirect, oui. Il est moins douloureux parce qu'il est caché.
Voilà.
Après, on reste ouvert aux dons s'il y a.
Oui, bien sûr.
Tout à fait.
Qui veut faire
ça.
Des dons, c'est avec grand plaisir, surtout sur l'investissement qu'on va faire au niveau de la nouvelle structure.
Oui.
On n'est pas contre quelques petits apports.
Un appui. On sollicitera nos adhérents à ce titre avec une cagnotte. Le but étant, bien évidemment, il y aura un emprunt pour pouvoir acheter le local que l'on occupe actuellement. L'objectif, c'est de consolider notre ancrage au niveau du territoire. Et effectivement, acheter le local nous permettra aussi d'en assurer une extension pour créer plus d'emplois, pour traiter plus d'appareils et proposer une alternative à l'achat d'appareils neufs. Donc, comme on l'a dit depuis le début, le comptoir de l'électroménager, c'est avant tout une recyclerie. Donc, vous trouvez des appareils bien moins chers que du neuf, avec la plus-value d'avoir en local fait travailler du monde.
Enfin,
ça soutient, ça nous soutient.
Quoi. C'est pas personne en insertion également.
C'est pas usine à l'autre bout du monde qui a créé l'appareil et un magasin. Alors, bon, heureusement, il existe Darty, But et Confo, on peut pas servir tout le monde, mais il faut on est d'accord, mais il n'empêche que vous avez une vraie action en local en venant acheter chez nous.
Très bien, alors je mettrai évidemment la publication sur le site internet, là, le podcast, un lien vers votre site internet.
Merci
beaucoup.
Et on verra notamment, ce que je disais, il y a la partie entre guillemets boutique, on peut voir ce qui est à vendre. Il y a même un lien vers votre profil du Bon Coin,
hein,
où les gens vont pouvoir carrément consulter.
Est-ce que vous savez pourquoi?
Non, dites-moi.
Quand on veut acheter de l'occasion, on va où d'après vous?
Ça dépend ce qu'on fait. Ça peut être eBay, mais c'est plutôt c'est le Bon Coin, on va dire.
C'est souvent c'est Marketplace et c'est le Bon Coin.
Oui,
et c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, il faudrait qu'on mette des annonces pour que les gens nous identifient parce qu'on n'est pas connus, malheureusement.
C'est ça. Et puis de temps en temps, on a des appareils aussi qui ne sont pas forcément vendables ou on ne viendrait pas forcément les chercher dans notre boutique.
Oui, bien sûr.
On préfère les mettre en avant effectivement sur des plateformes.
C'est toucher l'acheteur d'une manière que vous tout à fait. Pas sinon après c'est vrai que Marketplace c'est je pense encore plus local, enfin moi je crois personnellement les choses que j'achète ou vendues c'est vraiment les gens du coin qui sont sur les groupes les pages du 40 etc. Et donc du coup il y a plus de chances qu'on trouve des appareils qui soient qu'on peut aller chercher directement dans la journée à peu de frais. Donc c'est un bon plan aussi pour ça. On va faire notre dernière pause, on va écouter encore un petit peu de musique et on se retrouvera pour la conclusion de cette émission. À tout de suite.
À tout de suite.
Ah là là, The Power of Love, ça me rappelle un certain film avec un skate qui flotte.
Exactement, c'est ce que j'étais en train de dire à Charlène.
Et oui, quand même, ça c'est...
Retour vers le futur.
Ah,
non classique.
Ça c'est beau ça. Alors on en a parlé rapidement, on peut le redire, que vous faites de la réparation aussi. Hein. Donc,
effectivement, on fait de la réparation aussi pour le particulier.
Voilà, pour le particulier, ça c'est chouette.
Il peut venir
ça.
Nous amener son appareil qu'on va diagnostiquer et à partir de là, on établira un devis sur lequel il aura droit à un bonus réparation. Pour vous citer un exemple, tout ce qui est sèche-linge, lave-linge, vous avez droit à 50€. Sur un téléviseur, c'est 60. Et j'en passe, il y a les fours, les aspirateurs et autres. Donc à partir de là, on établit un devis, on reprend contact avec le client, et il nous donne son accord ou non.
Oui.
Et donc soit qu'on fait les réparations, soit soit il récupère son appareil ou nous on le revalorise différemment en récupérant quelques pièces dessus s'il veut bien nous le laisser.
Il n'y a que les frigos qu'on ne peut pas traiter aujourd'hui, frigo-congélateur, puisque ça demande beaucoup de temps, 3-4 jours pour avoir une courbe de température, intervenir dessus, donc vous comprenez bien.
Les contraintes techniques ne sont pas les mêmes.
C'est ça.
Le froid, c'est
on y renonce aujourd'hui.
Un peu plus compliqué, entre guillemets.
Oui, puis il y a des normes, il y a des gaz qui sont dangereux, qu'il ne faut pas lâcher dans l'atmosphère, il y a plein de choses qui sont
exactement,
aussi,
Bon, mais c'est un bon plan, hein, parce que c'est vrai que des fois, on peut se retrouver, j'ai ça qui est en panne, je vais regarder sur... sur un qui finit par zone.com, combien ça coûte et tout ça.
Achète dans ta zone.
Ouais, voilà, ouais.
Alors, faut faire très attention effectivement aux pièces détachées, hein, parce que quand nous on en commande, que ce soit pour la réparation ou même le particulier vient nous commander directement sa pièce détachée, hein, parce qu'on a aussi ce pôle de vente de pièces, qu'elles soient soit d'occasion, soit neuves. Mmh. Et on marche beaucoup avec la plaque signalétique de l'appareil et à laquelle on fait des demandes auprès de nos fournisseurs, parce que attention, quand vous achetez de votre côté, j'ai beaucoup de retours de clients que juste avec le numéro de la machine, pensez avoir la bonne pièce et se retrouve avec une pièce qui n'est pas du tout compatible.
Pareil pour la voiture. Hein.
Voilà, parce qu'il y a des années, des fois, sur les marques et selon les années, il y a eu des modifications et c'est pas toujours compatible. Donc, préférer venir nous consulter sera, à mon avis, une meilleure option.
Oui, bien sûr. Ouais.
On peut bricoler soi-même, bien évidemment.
Bien sûr. On peut juste fournir la pièce et, et le particulier se fait son auto-réparation.
C'est l'occasion de parler de cette obsolescence programmée, hein, parce que c'est un peu notre ennemi. Hein.
Oui.
Donc il y a quand même un encadrement légal qui fait maintenant qu'on oblige les gens à faire des choses qui soient réparables. Il y a un indice de réparabilité. Comme quand on achète de la nourriture, on sait si c'est A, B, C, D, A. En fonction de la couleur, si c'est facile à réparer
ou pas
réparer.
C'est les suites de la loi AGEC.
C'est l'occasion de dire du mal de la marque avec une pomme, que je ne citerai pas, mais vraiment qui...
Il n'y a pas qu'elle.
Non, mais c'est vrai que c'est emblématique, parce qu'en 2010, avec le Phone 4, ils avaient sorti des vis dont personne n'avait les outils pour démonter. Voilà.
C'était vraiment un propriétaire de leur marque.
Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment, de la malveillance. Hein. C'est un choix, voilà. Vous ne pourrez pas réparer votre appareil.
Voilà.
Voilà. Et ça, voilà, on est bien d'accord, ce sont vos ennemis héréditaires.
Oui, les constructeurs, mettez-vous à leur place. Quel est leur intérêt? Que l'appareil ne dure pas pour que vous repartiez en acheter un autre. Donc, c'est là où on peut intervenir encore une fois. Acheter du neuf, c'est pas rédhibitoire, au contraire. Voilà,
il faut, bien sûr.
Voilà, faites réparer.
Ah oui,
L'idée, c'est d'abord, je tente une réparation, et si vraiment c'est pas possible, à ce moment-là, je m'oriente sur de l'achat de reconditionné ou sur un achat.
Tout à fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des appareils qui ne sont pas réparables, comme vous disiez pour cette marque-ci, où on en a d'autres qui sont réparables, mais où on va voir la valeur des pièces qui est vraiment très onéreuse qu'on ne le réparera pas, et que je peux comprendre que le particulier ne le fasse pas non plus, donc c'est réparable, ils ont joué la carte de la réparabilité, mais derrière ils ne jouent pas la carte de l'accessibilité des pièces, et ça c'est un peu compliqué pour certaines marques, effectivement.
Peut-être un exemple, on a le temps ou pas?
Pas longtemps.
On peut, avant on pouvait réparer une machine sur les anciens modèles, changer une demi-cuve. Aujourd'hui vous ne pouvez plus, on vous vend la cuve complète, vous vous doutez bien que le prix c'est x2.
Des télés où avant on pouvait changer un cours d'eau, maintenant il faut changer soi-disant toute la carte, ce genre de choses.
Oui, alors on va prendre peut-être l'exemple des plasmas, étaient plus durables que les LED.
Oui,
vous voyez,
oui.
C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus léger, mais du coup ça surchauffe et ça pète.
Oui, c'est ça. Ouais.
Effectivement. La télévision est compliquée.
Mais on va rester positif, c'est réparable.
Mais les gens savent que
vous nous avez sur le Grand Ex.
Le comptoir électroménager solidaire.
C'est ça.
Et donc vous pouvez.
On vous accueillera avec grand plaisir.
Trouver des appareils d'électroménager beaucoup moins chers qu'à reconditionner. Et en plus, ça fait travailler des gens. Que demande le peuple?
Exactement.
Voilà. Eh bien, merci tous les deux d'être
merci
venus nous
de
présenter votre structure. Et c'est sympa de savoir que ça existe. Et moi, j'ai bien l'intention d'y faire un tour, je vous préviens.
Avec grand plaisir.
Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.